Les agités du mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les agités du local du mois.
Dans l'agité du local, toutes les semaines, nous allons promener notre micro en Mayenne dans un lieu emblématique ou pas auprès de celles et ceux qui font bouger leur département. Et tout au long de cette semaine, on découvre les coulisses du cabaret Le Live installé à Azé. Il réouvre ses portes ce vendredi après une fermeture de 6 mois à cause du coronavirus. Autant vous dire que leur retour est très attendu, aussi bien par les habitués que par les musiciens et danseurs. Je vous laisse pousser la porte et entrer dans le cabaret pour rencontrer son gérant.
Noah Piquet, je suis contrebassiste et co-gérant du cabaret. Alors là, on est dans la grande salle où on fait justement la partie dîner-spectacle. Donc on a juste à ma droite la grande scène, environ 200 mètres carrés avec une vingtaine d'artistes sur scène. Là, on est au milieu de la salle. Du coup, on aurait normalement habituellement grosso modo 250-260 personnes. Et là, on sera plutôt autour des 150 pour garder la distanciation nécessaire en ce moment, quoi. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on tourne un petit peu partout en France. Et effectivement, depuis 2017, on est posé dans ce bâtiment. Ce qui simplifie beaucoup de choses en termes de technique, le fait de déjà plus faire de route, de ne plus emmener le matériel sur toutes les prestations comme on le faisait avant. Du coup, par rapport à cette notion d'historique, effectivement, on est déjà au cœur de la 4e saison. La 3e a été un peu amputée parce qu'on s'est arrêté un peu précipitamment. Là, on redémarre avec le spectacle qu'on a déjà joué un petit peu du coup sur cette saison précédente. Alors, on lui apporte plein de nouvelles choses, notamment le morceau que vous allez peut-être entendre, qu'on est en train de déchiffrer aujourd'hui et de travailler, parce qu'il y a toute une chorégraphie qui a été nouvellement travaillée. On a ajouté de la technique à ça, avec de la motorisation pour des cerceaux, des choses comme ça. Donc là, on est en plein travail de nouveauté, parce que ce spectacle qui a déjà un peu de vécu, on lui amène plein de petites choses nouvelles. Encore une fois, je ne peux pas tout dévoiler, mais en tout cas, on est sur une thématique toujours très musicale. C'est joué toujours en live, énormément d'interactions entre les musiciens, les danseuses, les comédiens, les chanteurs, et encore une fois, beaucoup plus d'interactions, je dirais encore, avec le public. Et on est sur une thématique d'une jeune femme qui cherche son père.
Ce spectacle Daddy Swing a été joué pour la dernière fois le 13 mars 2020. Depuis, à cause de la Covid-19, le cabaret est resté fermé. 6 mois d'inquiétude, d'adaptation, avec la frustration de ne pas pouvoir organiser de représentation.
Alors la première des choses qui nous a manqué, c'est l'adrénaline de la scène, qui est complètement liée avec le fait de recevoir du public. On a été vraiment triste le 14 mars quand le décret est tombé, l'arrêté préfectoral est tombé en disant le 14 au soir vous ne jouerez pas, alors qu'on avait une représentation de prévue, on avait joué la veille. Et du coup, quand on a pris le temps le samedi matin 14 mars d'appeler tous les clients du soir pour leur dire que bien évidemment c'était annulé, ils s'en doutaient forcément. Et quand on a quitté le cabaret, ça devait être en milieu d'après-midi, on a fermé la porte et on s'est dit peut-être qu'on ne recevra pas du public avant quelques semaines ici, et ça nous attristait déjà. Et finalement, ce n'est pas quelques semaines qui s'est passé, c'est un peu plus de 6 mois. Donc vraiment, ce qui nous a manqué, c'est d'accueillir du public et de se produire sur scène, quoi.
J-4 avant la réouverture, et Benoît Piquet n'est pas le seul impatient. Vous entendrez demain Cindy Piquet, la co-gérante et chanteuse du cabaret.
Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Oh, they say there will come a day when youth will pass away, and what will they say about me when the end comes? I know they'll say just a gigolo, as life goes on without me.
Nous avons assisté à une répétition avec la principale chanteuse du cabaret. Je vous laisse écouter.
Alors bonjour, je m'appelle Cindy Piquet. Du coup, je suis la gérante avec mon mari du cabaret Le Live. Et au sein du cabaret, nous sommes surtout pour lui musicien et puis pour ma part chanteuse-danseuse. Depuis toujours et avant même l'aventure, du coup, on faisait déjà ces métiers-là auparavant dans d'autres groupes ailleurs. Du coup, maintenant, depuis 3 ans, dans notre propre lieu. Alors déjà, la première chose, c'est que du coup, on n'a plus de route à faire, chose qu'on faisait avant. Ce qui nous permet aussi, parce qu'on a 3 enfants en fait, donc ce qui nous permet d'être plus souvent avec nos enfants. Et c'est surtout aussi que pour la création, quand on est dans un lieu fixe, bah, c'est que du bonheur, quoi, parce qu'on n'a pas besoin de bouger tout le temps le matériel et on peut faire plein de choses, notamment le nouveau numéro qu'on a fait donc avec des cerceaux, de l'aérien, chose qu'on ne peut pas faire en allant à droite à gauche, quoi. Donc pour ça, c'est vraiment super. Et puis bah, surtout aussi que maintenant, on crée nos propres spectacles. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Complètement, la création d'un spectacle, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a non seulement l'écriture, mais il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les costumes, les changements de costumes, les transitions pour que les filles aient le temps de se changer, enfin, adapter aussi les chansons pour les chanteurs, il y a tout ça. Et il y a aussi toute l'autre partie qui est moins drôle, on va dire, c'est l'administration, en fait, qui du coup nous demande énormément de travail. Et c'est vrai que maintenant, par rapport à avant, on passe plus de temps dans notre bureau que sur scène.
Autre contrainte depuis 6 mois, le coronavirus, à l'origine de la fermeture du cabaret. Aujourd'hui, tout est fait pour respecter les conditions sanitaires, non sans effort de la part des salariés et des gérants.
Alors le problème, c'est contraignant, je dirais déjà financièrement, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on est en pause, donc on n'a eu aucun chiffre d'affaires depuis, et on a déjà dépensé quasiment 2000 à 2500 euros juste dans les produits, tout ce qu'il faut mettre en place, donc c'est quand même un coût assez conséquent. Et là où c'est compliqué, c'est que c'est vraiment pas naturel, quoi. Du coup, c'est vrai que dans le monde du spectacle, dans le monde de la fête, on a vraiment envie d'être ensemble, de partager des choses et tout. Et là, on est obligé d'imposer des règles qui font qu'on peut pas trop s'approcher, finalement. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais du coup, maintenant, toute l'équipe est renseignée. Enfin, voilà, on a fait vraiment des réunions exprès pour ça. Et finalement, ça va se faire facilement, je pense.
À voir donc à partir de ce vendredi soir. Et que serait un spectacle de cabaret sans ses danseuses? Vous entendrez Charlène, l'une d'entre elles, demain à ce micro. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance, and oh, this day. There will come a day will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they say just a gigolo, life goes on without me. En ce moment, tous les artistes et salariés sont sur le pont pour être fin prêts le jour J. Et parmi eux, Charlène Goulevent, l'une des danseuses du cabaret. Elle s'est lancée dans l'aventure dès le début.
Alors, bonjour, je suis Charlène Goulevent, je fais partie de l'équipe du cabaret Le Live, je suis danseuse. Et du coup, je suis là depuis la première, la excentrique. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a eu Classé Chic. Et là, cette année, Daddy Swing, qu'on renouvelle 2 ans par rapport au Covid, en fait. Dès qu'on a pu rattaquer les répétitions, on était trop contents de se retrouver. Et puis, en plus, Cindy et Benoît nous ont proposé un nouveau tableau pour justement apporter une nouveauté à Daddy Swing. Et on est en train de relever le défi. On a mis plusieurs répétitions en place. Et du coup, on est là, on se retrouve avec les musiciens. Enfin, c'est juste... C'est bon, c'est repas. Pour nous, on a une sensation, malgré qu'il y a tous les gestes barrières à mettre en place, pour nous, c'est une première victoire de remettre en place rien que les répétitions. Ah oui, on remet tout en place parce qu'il y a en fait, il y a des techniciens qui sont liés aussi à ce nouveau tableau, donc ils ont une place importante. Donc on est vraiment obligé de tout répéter parce qu'on ne peut pas se louper. Et en plus, il y a le côté hauteur, c'est vraiment une répétition très, très importante et précise. Plus c'est précis, plus c'est joli. C'est ce côté... Enfin, bonne équipe, un côté solidaire, on travaille ensemble, il n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, il y a des grosses difficultés des fois qui leur arrivent, mais ils arrivent toujours à gérer pour que voilà, on soit solidaire, qu'on soit vraiment une équipe soudée et surtout une bonne entente, une bonne confiance. Et tout ça, je pense que ça se ressent sur scène parce qu'on a une bonne énergie, on est ensemble, quoi. Je parle au nom de toute l'équipe, mais je pense que tout le monde pense comme moi, on est dans une bonne famille ici. On est bien, on est très très bien. Moi, j'ai ma famille, mes enfants, mon mari. Mais ici, c'est ma deuxième famille. J'aime bien être ici. Clairement, c'est le Covid qui fait peur, hein, c'est ça. Mais si les gestes barrières sont mis en place, ils ont tout fait pour. Ils ont mis les investissements en place avec le gel, les masques et tout, les plexiglas. Ils font tout pour que ça se passe bien. Donc normalement, on va dire que c'est bon. Logiquement, on est dans les normes, c'est parti, quoi. Nous, on a envie, quoi. On a vraiment envie. Nous, on veut danser devant un public. C'est ça qui nous manque maintenant, ça va être le public, quoi. Nous, on va être prêts, quoi. Donc voilà. Même les couturières, elles nous ont fait des masques assortis, parce que des fois, on a des passages dans les publics, et elles nous ont fait des masques assortis à nos jupes. Enfin, voilà, on a vraiment les petits détails. On essaie que ça, tout soit mis en place, quoi.
Et les masques accordés au costume, une personne pourra encore mieux nous en parler. C'est bien sûr l'une des couturières du cabaret que vous entendrez demain. We'll be right back. cabaret, vous pensez plume, chanson, danseuse, mais aussi forcément costume. Que seraient les danseuses de French Cancan sans leurs robes à froufrous ? Il en faut des petites mains pour réajuster les robes, les accessoiriser, voire les confectionner entièrement. Au cabaret Le Live, la couturière et costumière s'appelle Sylvette. C'est aussi la mère de Cindy Piquet, la co-gérante du cabaret. Elle a suivi l'aventure depuis le début, en 2017.
Je fais certains costumes entièrement, en partant de zéro. Sinon, c'est beaucoup de reprises, de mises, d'ajustements, de choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est une passion. Hein. Ma grand-mère était couturière d'un petit village, à Jublin. Elle était couturière d'un petit village, et puis j'ai cousu avec elle. Bah, quand on était jeunes, nous, on n'allait pas se promener ni faire de la vidéo. Hein. Alors, j'ai aidé ma grand-mère, puis de fil en aiguille, j'ai fait de la couture, mais pour moi, comme ça, c'est tout. Puis quand Cindy s'est lancée dans la chanson, bah, on s'est rendu compte que les costumes, c'était hors de prix. Alors, elle a dit, bah, écoute, maman, on essaie de se débrouiller toutes les deux. On a commencé petit. Puis là, je suis arrivée à faire des costumes pour le spectacle. Quoi.
D'accord. Et alors là, par exemple, quels sont les derniers costumes que vous avez confectionnés ou ajustés ?
Eh bien là, les derniers que j'ai faits, c'est le French Cancan, qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps quand même. Mais c'est valorisant, quoi. Quand on voit ça sur scène, bon, on se dit qu'on a bien travaillé quand même. Oui, c'est le plus gros que j'ai fait. Sinon, ben, c'est des robes... normal, quoi. Mais c'est beaucoup, on reprend vraiment tout. Tout est repris, tout ce que Cindy achète, hein. Tout est repris pour mettre à la taille des danseuses. Rapporter des pierres, des choses comme ça. Voilà, il faut que ça ait du clinquant, quoi. Il faut que ça apporte du clinquant. Et c'est beaucoup, beaucoup ça. Puis là, bah, cette année, évidemment, la grande nouveauté, c'est les masques pour tout le monde qu'on est en train de faire là en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a tous les masques bah, pour le service, quoi. Le service à table, les gens sont masqués. Alors c'est quand même plus joli d'avoir tout. Pareil, que chacun arrive avec son masque d'une couleur ou d'une autre. On fait ça, et puis pour justement le French Cancan aussi, comme les danseuses vont un petit peu dans la salle, alors on est obligé de faire des masques couleur de la robe. Moi non, puis il y a beaucoup de goût pour les costumes et tout, mais quand elle veut quelque chose, elle compte beaucoup sur moi, quoi. Si maman, elle sait que maman, elle peut lui demander un truc, elle va trouver. Elle en fait beaucoup d'elle-même aussi. Hein. Moi, on va dire, je suis tout le gros œuvre, tout ce qui est perlé, tout ça, c'est elle qui fait les choses derrière. Mais là, aujourd'hui, bon, on espère heureux. S'il n'y avait pas eu ce Covid à nous tomber dessus, là, ça aurait été super. C'était beaucoup d'angoisse aussi, même pour eux. Mais déjà, rien que les répétitions, c'est un baume au cœur parce qu'on revoit tout le monde et voilà, on sait que ça repart, que c'est sur le bon chemin, quoi. Maintenant, il n'y a plus que les gens à venir. Et puis... Non, je serai là pour les premières parce que les premières, souvent, ils font un œil. Moi, les costumes, déjà, les gens ne voient pas, mais moi, le costume qui ne va pas, je le vois tout de suite, quoi. J'ai l'œil. Et puis, même s'il y a des petites choses qui ne vont pas dans le spectacle, elle sait qu'elle peut compter sur moi, que je vais être direct, quoi. S'il y a un truc qui ne me plaît pas, je vais lui dire. Après, ils analysent, hein, ce n'est pas mon travail à moi. Mais ils aiment bien qu'on vienne voir quand même au début.
Sylvette sera donc parmi les clients ce vendredi et ce week-end, le temps des premières représentations. Demain, rencontre avec deux musiciens qui jouent tous les soirs en direct, d'où le nom du cabaret, Le Live. Pour Jean, le pianiste, et Brian, le trompettiste, c'est un véritable soulagement de remonter sur scène.
C'est vrai que ça a été une période pas évidente, où du coup on est un peu isolé. Alors on répète chez soi, on pratique son instrument, etc. Mais il y a quand même ce besoin de partager tout simplement la musique, ce qu'on aime, avec le public. Et du coup, ouais, vraiment ça fait plaisir de pouvoir répéter, de pouvoir retrouver aussi les copains, les amis, musiciens et danseuses, etc. Retrouver toute une équipe et on a hâte de retrouver le public également.
Vraiment, moi, ça m'a fait chaud au cœur là, de revenir dans la salle, de revoir la scène. Ouais, on est tous très contents, je crois.
Depuis l'adolescence, il y a une sorte de vivier de musiciens issus de... du sud Mayenne, et c'est vrai qu'on a tous été amenés à se côtoyer dans différents projets, et du coup le fait de bien connaître les gens avec qui on joue, Oui, forcément, ça facilite les choses, le dialogue, etc. On se comprend mieux, plus facilement. Donc c'est toujours intéressant, oui.
Effectivement, ce nouveau tableau, nouveau morceau, donc là, on va pouvoir le tester avec les danseuses, les chorégraphies, voilà, et réviser un peu tout le spectacle, en fait, hein, ça fera pas de mal. Se retrouver aussi sur nos réflexes musicaux et de scène. Voilà, mais ça devrait bien se passer, je pense.
Chacun arrive avec son savoir-faire. Il y en a qui vont être plus issus de certains types de musique, plus classique, d'autres plus jazz, etc. Pareil pour la danse, j'imagine. Et du coup, c'est tout ça qui a une grande richesse, en fait. Le fait que chacun amène sa petite patte au tout. Et du coup, c'est intéressant de côtoyer des gens qui viennent d'autres univers. C'est toujours enrichissant. Personnellement, j'ai une formation de pianiste plutôt classique. Je sais que Brian, mon collègue trompettiste, est plutôt issu du jazz. Et forcément, il y a des échanges, j'apprends beaucoup de lui. Peut-être que c'est la même chose en retour. Et du coup, c'est très enrichissant. Enfin, dans une vie de musicien, je pense qu'on est toujours... on a toujours envie d'apprendre à connaître et on n'a jamais fait le tour complètement.
Le cabaret a déjà programmé plus d'une centaine de dates jusqu'à fin juin, tous les week-ends et parfois même en semaine. Et puis enfin, sachez que la semaine prochaine, nous arpenterons les allées au milieu des babouins, des panthères et des pitons. Nous serons au refuge de l'Arche à Château-Gontier.
Les agités du mois.
Retour de notre feuilleton hebdomadaire, après les coulisses du cabaret d'Azé, nous nous intéressons au fameux refuge de l'Arche à Château-Gontier, qui accueille et soigne les animaux sauvages en captivité. Retour sur l'historique du refuge, 45 ans en arrière, avec son actuel directeur Yann Hujdé.
Eh bien effectivement, il y a 45 ans, mes parents, Christian et Daniel Hujdé, ont eu l'idée un petit peu folle de créer un refuge pour animaux sauvages. C'était un petit peu fou puisque ça n'existait pas, tout simplement. Et la première vocation du refuge a été l'accueil d'animaux issus de la faune locale. Donc il s'agissait d'animaux trouvés blessés, en perdition d'une manière générale. Et puis mon père, qui très tôt était déjà dans ces années-là en contact de Jacques Bouillot, qui a fondé, lui, en son temps, le parc zoologique du Tertre Rouge, dit aujourd'hui Zoo de la Flèche actuellement. Jacques, dans ses activités de parc zoologique, était énormément sollicité pour accueillir des animaux sauvages, toujours, plutôt exotiques et détenus en captivité, et beaucoup d'entre eux chez des particuliers. C'était complètement fou, là aussi, cette situation, dans le sens où, chez les particuliers dans ces années-là, on pouvait trouver assez facilement des lions, des singes, y compris parmi les singes, des anthropoïdes. C'est Jacques qui avait proposé à mon père, en lui disant, tu sais, ton histoire de refuge pour la faune locale, c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, ça n'existe pas. Mais sache qu'il y a un besoin énorme aussi pour ces animaux en provenance de la captivité. Moi, je ne peux plus en accueillir. J'en ai beaucoup accueilli sur mon zoo, mais je n'ai plus de place. Et si tu voulais étendre aussi à ton refuge l'accueil de ces animaux-là, ce serait là, pour le coup, une réponse à un besoin qui lui aussi devient vraiment, vraiment très important. Et c'est comme ça que très vite, finalement, 2 ans après la création du refuge, nous avons accueilli notre premier lion, King, qui a vécu toute sa vie au refuge. Une femelle chimpanzé, un premier ours aussi, Tsavo, c'était un récupéré, enfin acheté bébé d'ailleurs, par son ancienne propriétaire. Donc ça, c'est... Et puis le refuge est agrandi, Il s'est longtemps étendu sur un hectare. Et puis en 87, le district de Château-Gontier à l'époque avait accepté de nous proposer et nous assurer l'agrandissement du refuge en nous mettant à disposition 10 hectares. Donc nous étions donc fin des années 80. Et pendant toutes les années 90, pendant cette décennie-là, l'association a énormément investi pour aménager justement ces nouveaux terrains. Et le refuge a connu vraiment un premier virage important dans les années 90. Donc il y a eu beaucoup d'animaux pris en charge sur l'établissement, qui finalement avec le temps s'est surtout recentré sur l'accueil d'animaux en provenance de la captivité, qu'il s'agissait toujours bien entendu d'animaux issus de particuliers, mais ça pouvait être aussi des animaux issus de saisies par les services de l'État. Ça a été aussi des animaux qu'il a fallu récupérer à l'occasion de fermeture d'établissement ou en provenance de laboratoires de recherche scientifique.
Depuis son arrivée en 2008, Yann Hujdé a souhaité professionnaliser les équipes, ce qui est quasiment le cas à 100% aujourd'hui. Demain, on s'intéressera aux missions de la vétérinaire Sarah Warr. Notre série radio cette semaine nous emmène dans les allées du refuge de l'Arche à Château-Gontier. Juste à côté du refuge se trouve le centre de sauvegarde de la faune sauvage Valentine et Jacques Perrin. Les deux lieux sont gérés par l'association CEPAN, Club d'études et de protection des animaux et de la nature, pour laquelle travaille la vétérinaire Sarah Warr. On l'écoute.
Alors ma mission a deux axes en fait, puisque l'association gère deux structures, le refuge de l'Arche et le centre de sauvegarde. Du coup, moi, j'interviens sur les deux structures. Donc, c'est deux activités tout à fait différentes et deux médecines aussi qui sont très différentes l'une de l'autre. La première, c'est donc le centre de sauvegarde Valentine et Jacques Perrin, qui prend en charge les animaux de la faune sauvage locale en vue d'être réhabilités et relâchés dans la nature. Sur cette partie-là, c'est donc une médecine plus d'urgence, si on peut dire, puisque c'est la prise en charge d'animaux qui peuvent être électrocutés, qui ont pu avoir des chocs véhicules, diverses causes, des barbelés, etc., qui font que les animaux se retrouvent au sol. On a 70% d'oiseaux, hein, principalement. Et les gens, en fait, les particuliers, les découvreurs les ramassent et nous les apportent. Donc c'est principalement, encore une fois, une médecine d'urgence et de soins de plaies, de soins de choc véhicule, de soins de... Voilà. C'est une médecine qui est plutôt de ce côté-là. L'autre volet, c'est du nursing et de l'élevage, puisqu'en fait, sur le centre de sauvegarde, sur les périodes de printemps, on élève aussi tous les jeunes de l'année, que ce soit mammifères ou oiseaux. Donc là, c'est un volet élevage, donc beaucoup plus nutrition, nursing, pour élever les jeunes et puis les faire arriver à maturité avant de le relâcher dans la nature. La deuxième mission, c'est donc être vétérinaire sur le refuge de l'Arche. Donc là, c'est un volet tout à fait différent, puisque donc, le refuge de l'Arche gère 1200 animaux, en fait. Donc c'est des animaux principalement non domestiques, exotiques. Donc c'est des animaux en captivité, hein, qui restent ici jusqu'à la fin de leur jour pour la plupart. Et donc on n'a pas de reproduction sur site. Donc là on est plus sur une médecine de gestion d'une façon générale, c'est-à-dire bien faire des rations alimentaires adaptées, faire des enclos adaptés, gérer toute la partie parasitaire, la partie vaccinale, mais aussi toute la partie mise en groupe aussi, hein, d'une façon générale, donc faire des cohabitations entre les animaux, que tout se passe bien, etc. C'est une médecine aussi beaucoup gériatrique, puisqu'en fait on récupère des animaux aussi qu'on garde jusqu'à la fin de leur vie, comme je disais, mais qui sont aussi parfois vieillissants, donc il faut aussi leur apporter un confort de vie jusqu'à la fin, si on peut dire. Et puis on a aussi pas mal de recueils, on est que sur du recueil, donc on a parfois des animaux qui ont des histoires de vie difficiles. Et donc c'est là aussi un travail de tous les instants avec l'ensemble de l'équipe pour leur apporter un confort de vie et puis que les animaux redeviennent bien dans leur tête. Deux missions qui sont très différentes, mais à la fois complémentaires. D'une façon sur une mission beaucoup plus gestion et soins d'une façon très générale des animaux du refuge, et puis une médecine beaucoup plus d'urgence sur le centre de sauvegarde.
L'activité justement de ce centre de sauvegarde est plus intense en saison, au printemps et l'été, alors que l'activité du refuge est plus constante sur l'année. À découvrir dans les prochains épisodes de notre série, l'histoire de Martha l'ours brun. On se promène donc dans les allées du refuge de l'Arche à Château-Gontier, en compagnie aujourd'hui encore de la vétérinaire Sarah Ouar, qui nous raconte l'histoire d'un ours, Bonnie. Avec deux de ses frères et sœurs, il a été retiré d'un montreur d'ours. Des séquelles de dressage, des pathologies dentaires, autant dire qu'il n'était pas en bonne santé à son arrivée au refuge.
On a donc pris le temps, il fallait qu'il comprenne aussi dans quel environnement il était, qu'il découvre son nouvel environnement, qu'on lui disperse la nourriture, qu'il fasse de l'enrichissement, qu'on trouve d'autres activités pour lui, pour en fait diminuer ses stéréotypies. Les stéréotypies chez les animaux sauvages, c'est en fait des grandes angoisses, du grand stress. Et en gros, faut pas bloquer ces stéréotypies parce qu'en fait, c'est le moyen qu'ont les animaux pour se calmer. C'est comme un antidépresseur naturel en fait. Et donc, si on bloque ça, du coup, on augmente encore plus le stress. Donc, il faut trouver d'autres biais pour réussir à trouver d'autres solutions pour eux. Et donc, à force de temps, là, ça va faire presque un an, on a réussi. Bonnie est beaucoup mieux dans sa tête, il tique beaucoup moins. Il est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Il a repris aussi de l'état, parce qu'il est arrivé, il était relativement gros, mais très démusclé aussi. Donc, pareil, il a repris de la musculature. Donc là, c'est un bel ours de 280 kilos. Donc c'est un beau bébé. Et là, récemment, on a... on devait opérer ses dents, en fait, pendant le confinement. Et puis là, on a fait appel à un spécialiste en dentisterie qui travaille, en fait, avec Faunvet à Nantes. Et donc, c'est des spécialistes, en fait, en faune sauvage. Et lui, un spécialiste en dentisterie, qui sont venus en renfort sur le refuge pour donc opérer Bonnie. Donc Bonnie a été opérée, donc il y avait effectivement des grosses pathologies dentaires. On a dû retirer deux canines en bas. Les deux canines du bas ont dû être extraites totalement. Et par contre, les deux canines du haut, du coup, on n'a pas été obligé de les extraire. Mais par contre, elles ont été dévitalisées afin qu'il n'y ait plus une infection qui se propage. Donc Bonnie est opéré, il va bien maintenant, ce matin, hier matin il nageait, il n'y avait pas de soucis, à la suite de son réveil il nageait. Là encore, on peut estimer malgré tout qu'avec ses lésions dentaires qu'il avait, il était en souffrance, c'était quelque chose d'inconfortable, il faut imaginer, c'est comme nous, quand on a une dent pourrie, on a mal, tout le temps au quotidien, c'est quelque chose dont on souffre tout le temps, donc lui c'était une souffrance au quotidien. C'est difficile de savoir la douleur, surtout sur les animaux sauvages en captivité, parce que malgré tout, ça reste des animaux qui ne montrent pas. Ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas, c'est juste qu'ils ne montrent pas, parce que ça reste des animaux sauvages, que dans la nature, ils ne doivent pas montrer leur souffrance. Donc, c'est quelque chose qui est important, de se rendre compte et de prendre en charge la douleur, même si on ne la voit pas. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va le soulager. Et au niveau comportemental, on attend de voir effectivement si on a encore de l'amélioration sur son confort et sur son bien-être.
Ce qu'on espère bien sûr pour Bonnie. Demain, nous nous intéresserons au chantier d'insertion mis en place depuis plusieurs années déjà. Une autre mission plus sociale, celle-ci, du refuge. Depuis 25 ans, le refuge a ajouté une corde sociale à son arc avec l'intégration d'un chantier d'insertion. Ils sont une quinzaine à travailler pour le refuge pendant 12 à 15 mois sous la houlette d'éducateurs techniques, mais aussi d'Anne-Sophie Beaujon, la conseillère de ce chantier d'insertion.
On est conventionné par l'État pour accompagner environ 9 emplois temps plein, mais les personnes travaillent à temps partiel sur une base de 26 heures. Donc ils sont à peu près 12 à 14 sur site. Alors il y a deux activités support. La première, c'est tout ce qui est en lien avec les soins animaliers. Ils sont une dizaine sur cette activité-là. Et concrètement, ils font l'entretien des enclos, ils font également l'entretien du parc, puisque forcément, vu la taille du parc, il y a aussi tout ce qui est espace vert à entretenir. Et puis, la préparation des rations, tout ce qui est en lien avec le domaine animalier. La deuxième activité, on est plus sur l'entretien-accueil, où les personnes sont chargées d'entretenir les bâtiments ouverts au public, et aussi tout ce qui va être bâtiment du personnel, vestiaire, réfectoire. Les personnes qui s'occupent de l'entretien accueil interviennent aussi pour le nettoyage du linge du personnel, des uniformes. Et puis, ponctuellement, elles peuvent intervenir au niveau de la buvette, donc être en contact direct avec les visiteurs. Le principe, c'est tout simplement d'avoir essayé de trouver un emploi et de rencontrer une difficulté pour se stabiliser au niveau de son projet pro. Et dans ces cas-là, ils nous sont envoyés en ayant donc une proposition de contrat de travail et en complément un accompagnement socio-professionnel pour pouvoir justement lever les freins à l'emploi. On vient en fait tout simplement pour leur permettre d'être une étape dans leur parcours et d'être un tremplin vers l'emploi. On est souvent sur une difficulté de ressources, notamment pour les personnes qui sont au RSA. Le problème récurrent est également en lien avec la mobilité, ne pas avoir le permis. On est quand même dans une zone rurale, donc forcément le permis est fort utile. La majorité, pour ne pas dire la totalité, partent vers d'autres domaines. On a une personne là qui va partir prochainement pour être employée libre-service. J'ai un jeune homme aussi qui se prépare à partir en formation de boulangerie. J'en ai un qui est intéressé actuellement pour travailler comme soudeur. C'est très très varié. La plupart du temps, en fait, il y a une prise de confiance en soi qui se fait progressivement. Il y a aussi ce côté faire partie d'une équipe. Pouvoir justement voir les autres évoluer sur leur parcours. Donc ça crée une dynamique très intéressante parce que quand on voit que l'autre a réussi à faire telle ou telle démarche, bah forcément, ils ont envie d'en faire autant. Ça crée une dynamique positive. On est sur un cercle vertueux.
Et les prochains à s'engager sur le chantier d'insertion devraient arriver très bientôt. La mission du refuge, vous le savez, c'est de soigner et s'occuper de centaines d'animaux sauvages en captivité. Mais pourquoi garder ces animaux enfermés lorsqu'ils sont guéris et en bonne santé? Réponse avec Yann Hujdé, le directeur du refuge.
Les animaux que nous recueillons ont vécu des parcours complètement traumatisants pour certains, même si ce n'est pas toujours le cas. C'est malheureux de devoir continuer à récupérer autant d'animaux sauvages qui, dans l'absolu, n'ont rien à faire en captivité. Mais leur maintien en captivité s'impose, tellement leur histoire, depuis leur naissance, les a conditionnés, les a contraints, les a asservis à cette vie en captivité. Alors il y a beaucoup de discours autour de cette question en disant « mais bon, ce sont des animaux sauvages, ils sont porteurs de gènes et qui de toute façon révéleraient suffisamment leurs instincts pour pouvoir les relâcher dans la nature ». J'aimerais tant que ça, les choses soient si simples. Ces animaux ne font pas partie d'espèces qui sont menacées. Et il n'y a aucun programme de réintroduction qui porte sur des espèces qui ne sont pas menacées. Un programme de réintroduction, ce sont des programmes qui sont extrêmement coûteux, qui mobilisent un certain nombre de spécialistes et qui fonctionnent en drainant beaucoup d'argent. Et pour toutes ces raisons-là, les programmes de réintroduction sont réservés à des espèces qui sont en train de décliner fortement ou qui sont même au bord de l'extinction. Les espèces comme ceux que nous avons en refuge, prenons l'exemple des arachloroptères par exemple, ou du piton royal, ou du macaque rhesus ou du macaque fascicularis, toutes ces espèces-là ont des populations qui se portent plutôt bien à l'état naturel. Donc il n'y a pas de canal en fait de réintroduction de ces animaux-là. Naïvement, oui, on pourrait penser que ces animaux-là, parce qu'ils sont sauvages et qu'ils appartiennent à des espèces sauvages, ils pourraient retourner facilement dans la nature. Seulement, ce n'est pas aussi évident, ni d'un point de vue immunitaire, ni d'un point de vue, encore une fois, de l'apprentissage des comportements. Mais tout ça nécessite tellement de moyens sur place, dans les pays où on envisage de faire la réintroduction. Ces programmes-là, en fait, pour ces espèces-là n'existent absolument pas. Donc c'est pour ça que, malheureusement, nous, au CEPAN, on a plutôt le sentiment, et c'est dur de dire ça, mais que ce sont des animaux qui sont perdus pour la nature. Tous ces animaux qui sont nés en captivité issus de la nature et qui n'appartiennent pas à des espèces pour lesquelles on envisage de mettre en place des programmes de conservation et donc de réintroduction à terme. Pour ces animaux-là, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de les maintenir en captivité durablement.
D'où l'importance forcément de la mission du refuge de l'Arche, qui est ouvert toute l'année, on le rappelle. Et la semaine prochaine, dans notre feuilleton radiophonique, on s'intéresse à une initiative menée à Forcé, une épicerie avec des produits frais et locaux, ouverte 24 heures sur 24.
Agité du mois.
Nouveau feuilleton radiophonique cette semaine, direction Forcé, où un drôle de cabanon est installé depuis 2 ans sur le parking de la rue principale. C'est l'épicerie en libre service Les Serres au comptoir, qui a été créée par Anne Genvrin, avec des dizaines de produits frais et locaux disponibles 24 heures sur 24. Je vous laisse Anne Genvrin, sa créatrice, vous présenter le concept.
C'est un libre service, c'est-à-dire que c'est une épicerie qui est ouverte tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui met à disposition des produits locaux, aussi bien des légumes, des fruits, de l'épicerie. Alors quand je dis épicerie, ça peut être du saucisson, des pâtes, des œufs, de la farine. Et puis aussi des produits réfrigérés, comme les yaourts, du beurre, des galettes, de la viande, tout ce qu'on peut trouver dans une épicerie, sauf que celle-ci, elle est ouverte tout le temps. C'est sa particularité. Ça se veut pratique, simple et rapide. Là, j'ai mis les fruits, et là, donc, la partie épicerie, des petites cacahuètes, des pistaches, des œufs. Après ça tourne, parfois je mets du pain aussi quand le pain arrive, des petites chocolateries, des saucissons, et puis là du coup la partie légumes bio, parfois les légumes raisonnés également que je mets, mais principalement en agriculture biologique sur les légumes. Et là du coup la partie réfrigérée, le fameux frigo avec ses 36 cases, dedans du coup il y a viande, des yaourts, du fromage. Je reçois à chaque case qui part, je reçois un petit message sur mon téléphone. Du coup, ça me permet de savoir quand retourner et avec quoi. Et bah, du coup, on va sélectionner le casier numéro 147, par exemple, sur l'écran tactile. On va payer en carte bancaire et il va s'ouvrir. Voilà. Donc là, c'est un casier réfrigéré. Donc, par rapport à la chaîne du froid, c'est à nous d'ouvrir.
Merci beaucoup.
Merci. Par rapport à la chaîne du froid, c'est à nous d'ouvrir. Parce que, voilà. Par contre, eux s'ouvrent tout seuls. Voilà. Ça fait un exercice pour les enfants quand ils viennent avec leurs parents. Ils mettent le numéro de casier. Pour le CP, c'est parfait. Pour compter jusqu'à 100, c'est nickel. Bah, ça permet d'avoir ces produits qu'on aime tant à disposition 24-24. Le producteur, ça lui permet de vendre et d'être mis en valeur sans avoir de temps à passer non plus. C'est pas négligeable. Il a déjà beaucoup de temps à passer sur son exploitation. Et puis, il ne peut pas être présent partout en dehors de son exploitation. Il doit choisir ses points de vente. Il ne peut pas être présent partout. Avec mes maraîchers, parce que c'est les produits du coup, les plus sensibles, 3-4 fois par semaine. Après, avec différents maraîchers. Et puis, tel maraîcher va avoir tel produit, mais pas l'autre, et ainsi de suite. ce qui permet aussi du coup d'avoir une large gamme à proposer. Puis du coup, je propose en fonction de ce que les maraîchers me proposent. Mais c'est en flux tendu en permanence.
Et demain, on s'intéresse à l'impact de cette initiative au niveau local, toujours avec Anne Janvrin. Never felt the sun shine down on me all the day long. I've never felt this way before, my dear. I'm starving for your love. Des dizaines de produits frais et locaux disponibles 24 heures sur 24. Et parmi eux, on trouve des produits 100% vegan et crus. Je vous laisse sa créatrice vous en parler.
Je m'appelle Céline, 42 Délices. Voilà, c'est mon entreprise qui existe depuis 3 ans. Je fabrique des produits végétales, crus, déshydratés à basse température. J'ai 3 gammes de produits. Je fais des crunchies pour le petit déjeuner, sans sucre ajouté, tout naturel. Je suis labellisée Nature et Progrès, donc tout est bio. Je fais également des barres énergétiques et des petits crackers de légumes. Donc voilà, je vends ça sur les marchés, dans les biocoops. Et puis depuis peu, j'anime aussi les ateliers cuisine végétale en Mayenne. Je recherchais pour moi personnellement une façon de m'alimenter différente. Je n'avais pas envie d'être tombée malade, de rester en bonne santé. Donc je me suis dirigée vers une alimentation plutôt végétale. Et puis par la suite, végétale et crue. Et j'ai eu envie de... Je trouvais difficilement ce genre de produit en fait en Mayenne, même en France. Du coup, je me suis mis à en fabriquer et puis j'ai eu envie de faire découvrir cette façon de s'alimenter au plus grand nombre. Il faut savoir qu'en végétal cru, on peut tout faire. Moi, je fais des entrées, plats, desserts, je fais de la pâtisserie, je fais des fromages, des mousses, des crèmes. Voilà, on peut vraiment tout faire. C'est bluffant, il faut venir découvrir ça lors des ateliers que je propose. Alors là, par exemple, en septembre, j'ai fait un atelier petit déjeuner. Il y aura aussi de la pâtisserie crue, atelier pâtisserie, déshydratation. Je fais également des ateliers avec des menus complets, donc sur des thèmes, donc menu asiatique, menu oriental, voilà. Et puis au moment des fêtes, avant Noël, on fera des chocolats, on fera des apéros festifs, des fromages, voilà. C'est très varié, hein, on peut vraiment... Donc les ateliers sont à Saint-Germain-d'Anxur, à mon domicile, et ça peut aussi être à domicile des clients. C'est moi qui fabrique tout et en plus j'essaye d'utiliser de la matière première mayonnaise au maximum. Tout ce qui est possible de trouver en Mayenne, c'est-à-dire le lin, le tournesol, le sarrasin, le chanvre, toutes ces graines-là sont en Mayenne, donc je trouve ça en Mayenne. Tous les légumes également, on a des super maraîchers bio en Mayenne, donc... Les fruits, le kiwi, les pommes, tout ça c'est mayennais ou Pays de la Loire. Et puis après, bah, y a que ce qui est impossible. J'utilise des fois des bananes, des dattes, donc ça, pas encore en Mayenne malgré le changement climatique, mais j'essaye d'éviter maximum d'utiliser des produits qui ne sont pas locaux. Je vends essentiellement en circuit très court, hein. Je vends sur les marchés bio et puis dans les biocoops de la Mayenne. Ma clientèle est très éclectique, hein. J'ai très peu de végétariens même. C'est pas parce qu'on n'est pas végétarien qu'on mange pas des produits végétariens, hein. Des fruits, des légumes, tout le monde en mange. Donc voilà, c'est des curieux. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, du végétal où je fabrique des produits végétal crus, on devait être 2 ou 3 en France. Et alors d'aujourd'hui, 3 ans après, hein, il y a plein de petites entreprises qui se sont créées. Mais c'est très bien, hein, c'est au contraire, c'est positif, c'est-à-dire que les gens s'intéressent à ça et ont envie de mieux s'alimenter.
Et demain, lors de la suite de notre feuilleton, on rencontrera un autre producteur qui propose lui aussi ses produits au serre, dessert, au comptoir. During the morning, the early evening rain. We're smelling the roses, we're hearing the voices change. During the morning, the early evening rain. We're smelling roses, we're hearing the voices change. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I've never heard
started singing this way. From the biggest open sky, the sun will soon be rising, our love. Between the sunset and the dark.
Et je me rends compte que depuis le début de semaine, je n'ai même pas expliqué le nom de cette épicerie locale ouverte 24 heures sur 24, immédiatement compréhensible à l'écrit mais pas forcément à la radio, les serres comme les serres des exploitations des maraîchers au comptoir, bon là évidemment vous l'avez, l'équivalent de la caisse de votre petit commerce local. Et donc en parallèle des casiers permanents, dans les paniers on trouvera bientôt des produits cosmétiques, ceux de Margot Belloir installée à Entrammes. Depuis 2 ans, elle est animatrice d'ateliers cosmétiques et produit des articles en tissu zéro déchet, ainsi qu'une gamme de cosmétiques. Elle revient sur la création de son entreprise.
En fait, je me suis mise, moi, petit à petit, à faire pas mal de choses à la maison. Et à un moment donné, j'ai voulu transmettre en fait, aux personnes. J'ai trouvé une formation. Donc, pendant 6 mois, je suis partie me former sur la réalisation des cosmétiques, comment les fabriquer, les ingrédients, matières premières et tout ça. Et après, du coup, j'ai fait la partie atelier, j'ai développé la partie atelier cosmétique pour apprendre aux personnes à fabriquer leurs propres produits, les personnaliser en fonction de leurs besoins. Et derrière, tout le monde n'est pas adepte du faire soi-même. Et c'est pour ça que je veux lancer la gamme, du coup, de cosmétiques. Alors, au niveau des cosmétiques, on va avoir Chantilly de Karité, du coup, qui est une crème qu'on peut utiliser pour le corps ou pour le visage. On va avoir des déodorants. Des baumes à lèvres, shampoing, savon. Et après, il y a d'autres produits qui ne seront pas forcément dans la gamme de cosmétiques à vendre, mais qu'on peut fabriquer en atelier, comme des baumes à lèvres, rouges à lèvres, parfums, des fards à paupières. Et après, vous allez aussi avoir tout ce qui est lingettes démaquillantes, avec soit une pochette pour les mettre sur le rebord de la baignoire, des pochettes à savon ou à brosse à dents imperméable pour pouvoir transporter vos produits. On va avoir des sacs à vrac, des essuie-tout, des bouillottes. Surtout tout ce qui est les articles de tissu, ouais. C'est assez minutieux et du coup ça prend du temps pour que ce soit bien fait, quoi. C'est que c'est assez varié, du coup je touche un petit peu à tout. Et puis vraiment au niveau des ateliers, de transmettre ma passion du coup sur les matières premières et les cosmétiques. Qu'on peut faire des choses assez simples et efficaces. Et avec des matières premières qui sont naturelles et bio et sans des huiles pétrolières, sans des huiles minérales et tout ça qui sont très polluantes pour notre santé mais aussi pour l'environnement parce que faut pas oublier qu'on se lave et du coup tout ce qui vient sur nous va après dans les eaux et ça c'est des choses qu'ils ont du mal à traiter. Donc voilà pourquoi les ateliers. Et après la gamme de cosmétiques, c'est aussi ce que j'adore fabriquer. Et que du coup, je suis assez manuelle, comme vous pouvez le voir. Et du coup, voilà, d'avoir à la fois la transmission et à la fois la fabrication. C'est aussi essayer aux personnes de faire prendre conscience un petit peu ce qu'on consomme. C'est comme dans l'alimentation. On a la malbouffe et en cosmétique, ben, on a la même chose, mais sauf que c'est pas énoncé pareil. Et en alimentation, on est vraiment maintenant sur aussi du local, du bien manger, de l'alimentation saine, pas trop sucrée, pas trop salée, savoir ce qu'on met dans nos assiettes. Et je pense que c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on se met sur nous en termes de cosmétiques et d'hygiène.
Les cosmétiques naturels de Margot Belloir devraient être bientôt disponibles sur le site des serres au comptoir, à la commande dans les paniers 2 fois par semaine. Demain, autre jour, autre produit, une bière artisanale mayonnaise.
During the morning, the early evening rain. We're smelling the roses, we're hearing the voices change. During the morning, the early evening rain. We're smelling the roses, we're hearing the voices change. Oh, 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 oh.
L'épicerie locale en libre service 24 heures sur 24 propose des légumes, des fruits, des fromages, des cacahuètes, mais aussi des bières. Et pas n'importe lesquelles, des bières artisanales et locales produites par Maxime Duroy. Il est brasseur à Saint-Hilaire-du-Maine depuis 3 ans et demi et renouvelle son stock desserts au comptoir tous les mois.
J'ai 4 sortes de bières ici. Donc une blanche aromatisée au miel, une blonde, une ambrée, une brune. Donc c'est des bières légères en format 50 centilitres. Qui sont à 5 degrés, voilà, qui se boit assez facilement. J'ai commencé par la blonde, ouais, parce que la blonde c'est vraiment celle que les gens boivent le plus. Et puis après j'ai étoffé ma gamme, donc j'ai fait une ambrée, peut-être 6 mois après, ensuite 6 mois après j'ai fait une brune, et peut-être un an après j'ai fait une blanche, qui marche bien d'ailleurs. Et voilà, donc l'idée c'est d'avoir ces 4 bières là toute l'année, et d'avoir une bière occasionnelle comme ça tous les 6 mois, un an. En l'occurrence là j'en ai une, que je vends uniquement sur mes marchés ou chez moi. Et là, c'est une stout. Voilà, une stout, c'est une bière noire. J'ai l'idée de ce que je veux comme type de bière, donc c'est ou être amère ou non, enfin en fonction des arômes, etc. De la couleur, voilà, ce genre de choses. Et en fonction de ça, je sélectionne mon malt. Je mets certaines quantités pour certains malts. Ensuite, je fais la même chose pour le houblon. Je fais la même chose pour les levures, etc. Enfin voilà, c'est vraiment de l'expérience et en fonction de ce que je veux finalement. Pour la blanche, j'ai eu un peu de mal parce que l'aromatisée au miel, donc c'est difficile de doser. Mais sinon, ça s'est fait assez simplement, 3-4 essais maximum. Ça fait 6 ans que je mûrissais ce projet. Et en fait, à la base, je devais faire de la bière sur une ferme avec divers produits. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis en fait, pour l'instant, ce projet, il est un peu au point mort. Donc je me suis lancé tout seul pour l'instant. C'est des bières locales, donc les gens, en ce moment, le local, ça fonctionne. Et puis bon, après, bah, moi, je vais démarcher, je propose ma bière, je propose... aux gens de goûter, et soit ça leur plaît, ils les prennent, soit ça leur plaît pas, ils les prennent pas. C'est du local, en général, quand ça va plus loin que la Mayenne, quand ça sort de la Mayenne, c'est que c'est les gens qui les offrent, en fait. Après, moi, je suis à Saint-Hilaire-du-Maine, donc ça arrive que j'aille démarcher à Fougères ou à Vitré, et ça reste quand même à 30 km au plus. Local ou même artisanal, en fait, ça fonctionne en ce moment, enfin, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de bières, et il y a tellement de possibilités de faire des bières, elles seront toutes différentes, donc... Les gens qui aiment les bières, en général, ils aiment bien tester plein de bières pour découvrir de nouveaux arômes, en fait. Mon astuce, c'est de faire goûter, en fait, simplement, d'essayer de bien la décrire. Après, les gens, il faut qu'ils aiment pour ensuite pouvoir la commercialiser, quoi. Et puis souvent, c'est vraiment le local qui fonctionne. Dire que c'est du coin... Je commercialise des bouteilles de 50 centilitres, et c'est des formats qu'on trouve pas trop. Donc c'est une bière qu'on peut boire soit seul, si vraiment on a soif, ou même la partager... à 2, à 3, ou voire un peu plus. Donc ça plaît aussi aux gens. Et puis je les réutilise aussi. J'ai pas de consigne, mais je les fais laver, je les fais désinfecter pour les utiliser. Donc c'est au bon vouloir des gens, y a pas de consigne. S'ils veulent me les ramener, tant mieux. S'ils veulent pas, bah tant pis. Peut-être à 15%, 15-20% de gens qui ramènent. Mais bon, c'est toujours ça.
Une nouvelle bière devrait voir le jour d'ici Noël, disponible uniquement sur les marchés ou sur place à Saint-Hilaire-du-Maine. Demain, 5e et dernier épisode de notre série avec un éleveur. Parmi les tout premiers à rejoindre l'aventure, on retrouve des éleveurs de canards que je laisse se présenter.
Je m'appelle Isabelle Royer et je suis de la Maison Royer à Quelaine. Nous sommes producteurs de canards gras et d'agneaux. On fait de la vente à la ferme et on vend aussi sur les marchés quelques petites épiceries fines et puis également par l'intermédiaire du drive fermier 53 ou la ruche qui dit oui à l'Ouvernay. Oui, on est installé depuis 1984. Ça a toujours été en constante progression. La vente directe, les circuits courts se sont développés en plus ces dernières années. Donc voilà, c'est toujours en augmentation. Chaque année, on élève, on gave et on transforme à peu près 1300-1400 canards par an. Oui, le foie gras, forcément, c'est notre produit phare, mais on utilise toute la viande du canard pour faire des confits, des terrines, et puis différentes recettes qu'on a depuis longtemps pour certaines, d'autres plus récentes. Notre dernier produit qu'on a fait en conserve, c'est le cassoulet. Puis Anne Genvrin nous a contactés voilà, pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'elle puisse proposer nos produits dans ses casiers. Comment s'est organisée ? Elle nous contacte pour nous passer une commande en fonction de ses besoins et puis on la livre voilà, et après c'est distribué dans ses casiers. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui nous avaient dit qu'ils nous avaient connus par ce biais-là. Sur les casiers, Anne vend un petit peu de foie gras, mais c'est ponctuel, c'est vraiment au moment des fêtes. Après, toute l'année, c'est plutôt nos produits, nos conserves, enfin nos pâtés, nos confits. Voilà, quelque chose qui marche bien aussi, c'est le magret fumé. Mais c'est plutôt ce genre de produits qui fonctionne bien dans les casiers. Et le foie gras, c'est plus ponctuel. Hein. Vraiment, c'est réservé aux fêtes de fin d'année. Eh bien, ce qui fonctionne bien, ça va être le magret fumé, les rillettes de canard et puis nos pâtés, parce que c'est aussi des petits conditionnements. Et à l'improviste, c'est des choses qui peuvent se faire facilement, se partager si on a du monde à l'apéritif, voilà. Si quelqu'un nous contacte et que c'est quelqu'un qui habite Forcé, bah forcément on va lui dire qu'il peut retrouver nos produits très facilement dans les casiers. Donc oui, c'est un intérêt. Notre clientèle, elle est très locale. C'est vraiment essentiellement des Mayennais. Donc, et d'ailleurs, de toute façon, nous, on ne sort pas du département. Quand nos produits sortent du département, c'est que c'est des gens qui sont venus en Mayenne. Les gens aiment bien savoir d'où vient le produit, qui l'a fait, comment. Par la vente directe, ça nous permet aussi de répondre à toutes ces questions-là que se posent le consommateur.
Une trentaine de producteurs au total est donc associée au projet d'épicerie ouverte à tout moment de la journée à Forcé. Selon sa créatrice, la créatrice donc des serres au comptoir, son concept permet aussi d'éviter la désertification des villages et de fournir une clientèle âgée qui ne peut pas forcément se déplacer dans les exploitations agricoles.
C'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux agités du mois.